Merci beaucoup, Anne, pour ces remarques très généreuses. Je tiens à remercier également les organisateurs du colloque de m'avoir invité à participer à ces journées de réflexion sur Du côté de chez Swann ou le cosmopolitisme d'un roman français. J'aimerais bien commencer cette communication avec une citation de Proust. « Combien sur le chemin tournant du temps nous ne pouvons pas apercevoir l'avenir d'une nation plus que d'une personne. » Voilà ce que note Proust en 1919. Cette formulation témoigne d'une révision de son jugement au moment où il fait retour sur une publication antérieure de « La mort des cathédrales », article qui a été réédité dans Pastiche et Mélange en 1919. Lorsqu'il fut publié pour la première fois dans le Figaro le 16 août 1904, cet écrit portait témoignage de l'opposition de Proust à la séparation des Églises et de l'État. Sans pouvoir être qualifié d'apologétique à proprement parler, il était davantage une défense du catholicisme culturel qui, aux yeux de Proust, constituait indéniablement la spécificité culturelle de la France. Pour Proust, la construction de cathédrales au Moyen-Âge rendait manifeste le triomphe de ce qu'il appelle une démocratie silencieuse en France et, dans la guerre culturelle qui mena à la séparation de l'Église et de l'État, Proust s'opposa catégoriquement, comme nous savons, à la laïcisation. Le changement de positionnement idéologique qui devait s'opérer par la suite chez Proust le porta à considérer La mort des cathédrales de 1904 comme la preuve d'un changement de sens et de culture. Il soutient dès lors que l'histoire naturelle ou nationale n'est pas plus prévisible que l'histoire personnelle. Les préoccupations liées à la séparation ont été déplacées et remplacées par celles d'une nouvelle décennie. Quand je parlais de la mort des cathédrales, je craignis que la France fût transformée en une grève où de géantes conques ciselées sembleraient échouées, vidées de la vie qui les habita et n'apportant même plus à l'oreille qui se pencherait sur elles la vague rumeur d'autrefois, simple pièce de musée glacée elle-même. Si les craintes initiales exprimées par Proust dans Le Figaro en 1904 rappellent celle de Maurice Barrès dans La grande pitié des églises de France, publié en 1914, l'auteur de la recherche observe, une décennie et demie plus tard, que c'est l'armée allemande qui menace la matière et la substance des églises de France, alors que les représentants anticléricaux autrefois hostiles faisaient, avec la guerre, cause commune avec les évêques patriotes. Si cet exemple précis illustre le fonctionnement du kaléidoscope social, pour reprendre la métaphore de Proust, toute considération sur la nation évoquée par Proust se doit, me semble-t-il, de prendre en compte la dimension diachronique présente dans ses multiples réflexions sur ce sujet. Une recherche lexicale de la séquence de lettres N-A-T-I-O-N dans Du côté de chez Swann révèle 30 occurrences du terme « imagination », 8 occurrences d'intonation, 5 d'indignation et seulement 2 de « nation » sous sa forme adjectivale nationale. Ce premier regard pourrait à tort laisser penser que la nation n'a qu'une présence marginale dans Du côté de chez Swann. Cependant, la France et l'imagination nationale, pour ainsi dire, sont bel et bien présentes dans Du côté de chez Swann. La nation se ferait un chemin dans le premier volume du roman de Proust au moyen de puissants vecteurs, le rite familial, l'architecture ecclésiastique, l'évocation d'une culture militaire, une littérature nationale et même l'évocation à travers l'évocation des Champs-Élysées dans la troisième partie de Du côté de chez Swann. Parmi les rites familiaux de Combray figure le déjeuner du samedi, pris de bonne heure, de façon à permettre à Françoise de se rendre au marché de Roussainville-le-Pin dans l'après-midi. Le narrateur décrit le plaisir que la famille prend à ce rituel. Déjeuner une heure plus tôt que la normale, chaque samedi, devient pour nous tous une figure particulière, indulgente et assez sympathique. Ce rituel est identifié par le narrateur comme un de ces petits événements intérieurs, locaux, presque civiques, qui, dans les vies tranquilles et les sociétés fermées, créent une sorte de lien national. Le choix des adjectifs intérieurs, locaux, civiques, tranquilles, permet au narrateur de proposer la création de ce qui pourrait être qualifié d'identité micronationale. Mais dans cette vignette d'harmonie familiale, il est significatif que le narrateur cherche à comprendre la psychologie du sentiment d'appartenance de l'intérieur comme de l'extérieur. Le choix de l'adjectif « fermé » atteste du fait que l'histoire micronationale est aussi celle d'une exclusion. Il est en effet significatif qu'une source de plaisir supplémentaire pour les participants du déjeuner soit trouvée dans le fait qu'eux-mêmes disent, racontent l'histoire de l'harmonie et de l'identité du groupe. Identité d'ailleurs renforcée par l'arrivée de voisins qui ne se doutent de rien alors que la famille s'apprête à se mettre à table. Raconter et se sentir appartenir participent du même plaisir. C'est bien le cas pour Françoise. En tant que conteuse, nous lisons, elle essuyait des larmes d'hilarité et pour accroître le plaisir qu'elle éprouvait, elle prolongeait le dialogue, inventait ce qu'avait répondu le visiteur à qui ce samedi n'expliquait rien. Et bien loin de nous plaindre de ces additions, elles ne nous suffisaient pas encore. Parallèlement à ce goût à se raconter au sein de la communauté des mangeurs, le narrateur commente ironiquement sur le fait qu'il eût été le noyau tout près pour un cycle légendaire si l'un de nous avait eu la tête épique. Ainsi, communauté, narration et épopée se rejoignent ici. Pourtant, l'accent mis sur l'intériorité et l'extériorité, les visiteurs arrivant dans la maison familiale sont qualifiés de barbares, fournit une version ludique de ce qui, dans le temps retrouvé, va se transformer en un dispositif d'exclusion violente qui marque la description de la nation en temps de guerre. La fidélité au groupe ou le sentiment d'appartenance à un lieu constitue un leitmotiv dans Du côté de chez Swann. Dans la première partie du volume, La vie à Combray et son système, je cite un peu hindou, est décrit comme fonctionnant selon des séparations sociales rigides qui ne sont remises en cause que par un narrateur qui se situe en dehors des événements narrés. En évoquant le salon de Madame Verdurin dans la deuxième partie, le même narrateur affirme que le petit clan fonctionne grâce à une acceptation aveugle, jamais remise en cause de l'orthodoxie de la pensée, de fait menacé par l'examen, par l'observation extérieure. C'est ainsi que Madame Verdurin se méfie de cet esprit d'examen qui pouvait par contagion devenir fatal à l'orthodoxie de la petite église. Dans la troisième partie de Du côté de chez Swann, le parc des Champs-Élysées, qui pour Madame Blatin représente une petite patrie, sert de toile de fond au désir du jeune Marcel pour Gilberte. L'arrivée de Gilberte au parc, malgré le froid glacial, déclenche chez Madame Blatin la réaction suivante. « Brava, brava, ça c'est très bien. Je dirais comme vous que c'est chic, que c'est crâne. Si je n'étais pas d'un autre temps, du temps de l'Ancien Régime, s'écria la vieille dame, prenant la parole au nom des Champs-Élysées silencieux pour remercier Gilbert d'être venu sans se laisser intimider par le temps. Vous êtes comme moi, fidèles quand même à nos vieux Champs-Élysées. Nous sommes deux intrépides. L'association de la référence aux attitudes de l'Ancien Régime et de nos vieux Champs-Élysées dans les mots de bienvenue de Madame Blatin fait signe vers un lexique de la fidélité à un lieu, à une époque historique et à des mœurs anciennes qui lui sont associées. Son identification à une voix de la nation en particulier est signalée par son choix de journal. Elle, je cite, « Elle lisait toujours les débats qu'elle appelait mes vieux débats. » Ceci a pour effet de renforcer le sentiment d'identité du groupe qui place au premier plan l'inclusion et d'où découle aussi une exclusion. Si un cosmopolite est un citoyen du monde, une personne qui, et là je cite la définition que l'on trouve dans le Grand Robert, une personne qui vit indifféremment dans tous les pays, si ça c'est la définition d'un cosmopolite, Madame Blatin personnifie une vision du monde qui est résolument locale. De même que les participants du déjeuner décalé du samedi à Combray, elle se félicite d'en faire partie. Lorsque Madame Blatin prend la parole au nom des Champs-Élysées, elle est alors ironiquement représentée comme parlant pour cette petite patrie. Parler pour, porter la parole de, que ce soit au nom d'une famille, d'un lieu, d'une communauté, est un thème récurrent dans Du côté de chez Swann. De la petite patrie qu'est Combray, le narrateur écrit que, vu de loin, ce n'était qu'une église résumant la ville, la représentant, parlant d'elle et pour elle au lointain. De même que Madame Blatin parle de et pour un lieu, pour un espace parisien, l'église de Saint-Hilaire parle de et pour un espace qui est, par excellence, provincial et français. On pourrait dire, entre parenthèses, que dans le temps retrouvé, lorsque nous lisons que Sarah Bernard déclare que la France ira jusqu'au bout, c'est M. de Charlus qui montre son indignation en disant, je cite, « Je me demande jusqu'à quel point Madame Sarah Bernard est qualifiée pour parler au nom de la France ?» La question que l'on pourrait poser alors, c'est qui a le droit de parler pour la nation? L'évocation de l'église de Saint-André-des-Champs rend explicite le lien à la francité. Souvent aussi, nous allions nous abriter, pêle-mêle avec les saints et les patriarches de pierre, sous le porche de Saint-André-des-Champs, que cette église était française. Si le narrateur révèle son soutien enthousiaste à une culture nationale, la francité dérive ici non seulement de l'architecture environnante, mais de la réunion de dimensions diachroniques et esthétiques, dans laquelle la fusion d'objets centenaires et de personnages de chair et d'os appartenant au présent renforce l'identité nationale. De même, sous les pierres tombales de l'église de Combray, les cendres d'abbé de Combray défunt forment un pavage, je cite, un pavage spirituel, alors que les pierres tombales n'étaient plus elles-mêmes de la matière inerte et dure, car le temps les avait rendues douces. Dans le cas de Françoise, le lien avec une dimension diachronique fournit l'accès au code qui gouverne sa vie. L'on était obligé de se dire qu'il y avait en elle un passé français très ancien, noble et mal compris, comme dans ces cités manufacturières où de vieux hôtels témoignent qu'il y eut jadis une vie de cour et où les ouvriers d'une usine de produits chimiques travaillent au milieu de délicates sculptures qui représentent le miracle de Saint Théophile ou les quatre fils Aymon. Au-delà des pierres médiévales et d'attitudes mentales de sources anciennes, il est possible de considérer la façon dont les voix et les bruits de la nation contemporaine sont entendus dans le premier volume d'À la recherche. À l'époque de sa toquade pour Gilberte, Marcel entend en bas dans la rue le son de « En revenant de la revue » qui sort d'un organe de barbarie. Rendu célèbre par une interprétation de Paulus dans les années 1880, cette chanson devint une sorte d'hymne au plus fort de la popularité de Boulanger, quand celle-ci proclamait son soutien au général et à la culture militaire. Le jeune Proust lui-même parle de l'atmosphère de carnaval de rue quand est chantée la chanson le 14 juillet dans une lettre à Antoinette Four du 15 juillet 1887. Le jeune Proust écrit « Jamais les rues d'Auteuil, où j'ai passé seulement la journée du 14, n'avaient été aussi animées qu'hier. Vous ne trouvez pas entraînant ce refrain ?« Gais et content, nous allions triomphants » ou « Ces boulanges, l'ange, l'ange » hurlés par tous, femmes, ouvriers, jusqu'aux petits enfants de 5 à 8 ans qui le chantent très très juste, avec ardeur. D'autres bruits montent de la rue. Tardivement, dans un amour de Swann, un personnage non identifié parle des relations sexuelles qu'il a eues avec Odette le jour de la démission de MacMahon. Comme l'explique le monsieur, les cris du vendeur de journaux dans la rue, annonçant sans doute ces nouvelles importantes, ont interrompu leurs ébats. Dans le paysage domestique de Combray, le grand-père de Marcel semble aller dans le sens de l'obsession nationale avec l'identité juive en fredonnant des airs d'opéra tels que La Juive de Fromental à Lévis et de Samson et Dalila de Saint-Saëns. Ces voix du siècle, pour ainsi dire, s'entremêlent donc avec des aspects de la vie de la nation sous la Troisième République, l'affaire Boulanger, l'affaire Dreyfus, qui semblent compléter l'héritage de l'Ancien Régime, qui est évoqué de façon nostalgique dans la caractérisation d'une figure telle que Françoise. Cependant, le questionnement implicite d'un tel consensus est tout aussi clair. En effet, dans le dernier volume du roman, le ton de la censure en ce qui concerne la représentation de la vie de la nation est bien en évidence, d'où la critique souvent citée, évoquée par le narrateur, d'un patriotisme étroit dont l'impact est de réduire le rôle de l'art. Chaque événement, que ce fut l'affaire Dreyfus, que ce fut la guerre, avait fourni d'autres excuses aux écrivains pour ne pas déchiffrer ce livre-là. Il voulait assurer le triomphe du droit, refaire l'unité morale de la nation, n'avait pas le temps de penser à la littérature. Selon le narrateur dans Le Temps retrouvé, la littérature doit rejeter une conception étroite de la nation et plus particulièrement les préjugés engendrés par un nationalisme xénophobe. Dans le même volume, la nation est définie comme suit. Il existe d'énormes entassements organisés d'individus qu'on appelle nations. La nation est composée de la vie des cellules composantes, dit Proust. Si on relit du côté de chez Swann sous ce prisme, Madame Verdurin et son petit clan, Tante Léonie comme chroniqueuse de la vie de Combray, Madame Blatin qui parle au nom des Champs-Élysées, ces personnages peuvent se lire comme des exemples des cellules composantes dont parle Proust. Dans le même développement textuel du temps retrouvé, le narrateur songe aux grands ensembles d'individus appelés nations qui se comportent eux-mêmes, dans une certaine mesure, comme des individus, d'où découle l'idée d'un individu-nation. Le mécanisme d'un instinct collectif est tôt présent à Combray, où la grand-tante cherche à liguer les membres de la famille contre la grand-mère. Elle voulait nous arracher une condamnation en bloc des opinions de ma grand-mère contre lesquelles elle tâchait de nous solidariser de force avec les siennes. La solidarisation, une condamnation en bloc, ces éléments contribuent aussi à la formation de la nation. Si le conflit armé problématise ce qui est dit de la nation dans Le Temps retrouvé, la manifestation de la culture militaire de Combray est donnée comme une source de spectacle populaire sans qu'elle ne donne lieu à des soupçons quant à son nationalisme étriqué tel qu'il est exposé par Charlus, par exemple, face à la Première Guerre mondiale dans le dernier volume du roman. Combray descend dans la rue, dans la scène qui décrit le passage des cuirassiers placés en garnison à proximité alors qu'il parade dans Combray. Tandis que le jeune protagoniste se précipite dans la rue avec Françoise, le narrateur s'empare de cette image évocatrice de la vie en province sous la Troisième République. À la suite de la défaite de 1870, le gouvernement de la Troisième République naissante étendit la durée du service militaire obligatoire à 5 ans. Comme le note l'historien Eugène Weber, la mentalité militaire, de même que la société militaire, était en train de devenir une partie de la vie française. L'armée, comme les écoles d'État de la Troisième République, devinrent un organe de diffusion idéologique pour la transmission des valeurs républicaines. Le grand-père de Marcel témoigne sans conteste de la socialisation apportée par la culture militaire, dans la mesure où, comme on peut le lire dans À la recherche, il ne manquait pas de se lever et d'ôter son couvre-chef en signe de respect au colonel et, comme il était d'usage, au passage du régiment. De même, Swann précise dans son testament qu'il souhaite être enterré dans les honneurs militaires. Ce qui, nous lisons, ce qui assembla autour de l'église de Combray tout un escadron de ses cavaliers sur l'avenir desquels pleurait autrefois Françoise quand elle envisageait la perspective d'une guerre. L'abattement de Françoise introduit un élément de discordance dans le sublime républicain, dont la culture militaire forme une composante importante à Combray. Dans la scène représentant la parade des cavaliers à travers la ville, l'émotivité de Françoise se mêle au cynisme du jardinier. L'extrême sensibilité de la réaction de Françoise face aux appelés s'explique par le souvenir encore vif de la guerre franco-prussienne. Sur fond de défilé dans cet échange entre deux membres de la classe inférieure, Françoise est accablée à l'idée que la guerre s'apprête à décimer une génération entière. Cependant, il est important de noter que la discussion de la cuisinière et du jardinier sur la question de la moralité de l'usage de la violence par l'État est de fait neutralisée par le narrateur. En effet, leur conversation est présentée comme un mélodrame trivial, comme une forme de conversation en coulisses. Le caractère suspect d'une nation qui se lance dans une guerre était une idée connue de Proust. Il avait lu très attentivement l'esprit chrétien et le patriotisme de Tolstoï lors de sa parution en français en 1894. Commentant la collaboration militaire et diplomatique franco-russe célébrée dans les deux pays, Tolstoï s'insurgeait contre ce qu'il voyait comme la démonstration d'une autosatisfaction nationaliste commune. Si Proust rejette la thèse de Tolstoï, c'est peut-être bien cette dernière qui est exposée à Combray, celle de l'aspect suspect d'une nation en guerre et qui se devait d'être exposée par des figures socialement inférieures comme Françoise et le jardinier. Cette technique de trivialisation opérée par le narrateur proustien peut être vue comme une relégation idéologique de ce qui est présenté comme une objection morale aux nations qui partent en guerre. La parade militaire de Combray, loin de faire écho aux objections de Tolstoï à la guerre mentionnées plus tôt, fournit un spectacle vivant et animé et une tribune, un espace qui permet la visualisation de la culture militaire de la nation. C'était précisément cette visualisation que visait la critique de Tolstoï. Il voit dans les célébrations conjointes du militarisme dans les deux pays l'œuvre d'une classe dirigeante, et c'est à Tolstoï de rejeter ce qu'il appelle la réaction hypnotisante du gouvernement et des classes dirigeantes. Il dénonce ce qu'il appelle la duperie du patriotisme, cette étonnante superstition. Pour Tolstoï, l'esprit chrétien devrait dépasser le national. Ainsi, insiste-t-il, la doctrine du Christ ordonne de faire du bien à tous les hommes, car on les considère tous comme frères, sans distinction de nationalité. À l'inverse, à Combray, le christianisme apparaît comme faisant partie intégrante de la nation. Là, j'arrive à quelques remarques en guise de conclusion. J'ai, au début de cette communication, cité la remarque de Proust sur les changements sémantiques et culturels que la définition de la nation est susceptible de connaître. Combien, à quelques années de distance, les mots changent de sens et combien, sur le chemin tournant du temps, nous ne pouvons pas apercevoir l'avenir d'une nation plus que d'une personne. Du côté de chez Swann, est peut-être plus proche d'un point de vue idéologique de l'ère du temps tel qu'il peut être perçu dans La mort des cathédrales qu'il ne l'est dans sa présence dans le recueil Pastiche et mélange de 1919. Dans le texte ultérieur, on peut observer une relativisation évidente du positionnement qui est le sien vis-à-vis de la nation et de la culture. Cette réticence se retrouve également dans l'opposition de Proust au parti de l'intelligence dans sa campagne de 1919, qui entendait faire de la littérature une tribune permettant la promotion du prestige national. Tant du côté de chez Swann, les pratiques de la vie quotidienne à Combray et à Paris que nous avons vues font implicitement signe vers une chronique de la nation. Les scènes de la vie provinciale et parisienne sont porteuses d'éléments d'autocongratulation, comme en témoignent les déjeuners du samedi, d'autosatisfaction collective, voire le clan Verdurin. On peut également citer l'accès à un passé médiéval vu comme glorieux et rédempteur par Françoise. Et on a vu aussi la marginalisation des voix soupçonnant, je cite, la manipulation de l'État comme autant de signes de la composition d'une chronique de la nation. Mais il est toutefois notable que la conscience de faire partie d'un groupe ne se donne qu'en suggérant l'étrangeté et l'extériorité. C'est ainsi que, de façon décisive, le narrateur proustien soumet à l'examen la psychologie de l'appartenance collective. Je vous remercie.